À quoi comparons-nous le royaume de Dieu numéro 12 les deux fils? L'histoire lire Matthieu 21h28-31a. Il n'est pas difficile de déterminer le point central de ce petit récit, car Jésus précise lui-même le jugement que les auditeurs doivent porter sur la situation décrite. Qu'en pensez-vous? Lequel des deux a fait la volonté du Père? Impossible de répondre autre chose que, le premier. Le contexte pour découvrir son sens originel, il faut situer cette parabole dans le cadre des circonstances historiques qui ont amené Jésus à la prononcer. En Matthieu 21, l'heure de Jésus est arrivée, et il vient de faire son entrée triomphale à Jérusalem. On est au début de la semaine même de la crucifixion, une semaine marquée par des conflits toujours plus graves entre le Christ et les chefs du peuple. Ceux-ci, indignés par les acclamations messianiques que lui adressaient les foules, Matthieu 21h15, Luc 19h39-40, par les miracles qu'il accomplissait, Matthieu 21h14-15, par son expulsion des vendeurs, Marc 11h18, et par son enseignement dans le temple, sont décidés à supprimer Jésus. Luc 19h47b-48, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment faire car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Ainsi, c'est dans le but de trouver un motif d'accusation contre Jésus que les autorités religieuses et politiques du peuple viennent l'interroger sur l'origine de sa mission. Lire Matthieu 21h23. La question est posée par les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple et les scribes, Luc 20, 1, c'est-à-dire par les représentants des trois groupes qui constituaient le Sanhédrin, Luc 22, 66. Leur question vise non seulement la prédication de Jésus dans le temple mais aussi tous les actes d'allure messianique avaient accomplis depuis son arrivée à Jérusalem. Elle revient à lui demander de déclarer formellement s'il est le Messie, s'il tient son autorité de Dieu ou non. Or, ce n'est que quelques jours après, lors de son apparition devant le souverain sacrificateur et le Sanhédrin, que Jésus fera cette confession capitale, Marc 14, 61 à 62. Pour le moment, il refuse de répondre si ses interrogateurs ne répondent pas d'abord eux-mêmes à sa question. Lire Matthieu 21h24-27. Jésus amène les chefs religieux du peuple à avouer publiquement leur incompétence pour juger si son ministère vient de Dieu ou des hommes. Car les voici, eux dont la fonction était de contrôler tout enseignement religieux, incapables de se prononcer sur un personnage aussi important que Jean. Jésus n'a aucun compte à rendre à des juges tellement ignorants. D'ailleurs, étant donné le dilemme devant lequel la question de Jésus met ses inquisiteurs, ceux-ci n'insistent pas. Après avoir ainsi retourné la situation, Jésus passe à l'offensive pour démasquer l'opposition des chefs d'Israël et les menacer du jugement divin. Cette contre-attaque consiste à raconter trois paraboles qui gravitent autour du rejet du Christ par ceux-là même qui auraient dû le recevoir, les membres de la classe dirigeante. Ceux-ci sont visés en effet par les paraboles des deux fils, des vignerons homicides et des noces. Lire Matthieu 21h45-46. Dans la suite de l'Évangile, toutes les autorités politiques et religieuses juives se ligueront de plus en plus contre Jésus, Matthieu 22h15-46, et la série de controverses inaugurées par la démarche des Sanhédrites aboutira aux terribles malédictions contre les pharisiens et les scribes, Matthieu 23:1-36, et au discours prophétique annonçant le jugement divin qui les frappera, eux et tous les juifs incrédules, Matthieu 24:25. L'application originelle une fois que ses auditeurs ont porté leur jugement sur la situation décrite dans le récit, Jésus applique ce jugement à leur propre situation. Lire Matthieu 21h31-32. Cette parabole est évidemment une accusation portée contre les chefs du peuple rassemblés autour de Jésus dans le temple. Relevons de l'application faite par Jésus les différents éléments de cette mise en accusation. 1. Le piège. Dans la discussion qui a provoqué cette parabole, Jésus avait posé aux chefs du peuple la question suivante, Matthieu 21h25, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel, ou des hommes? Flairant le piège, ils ont raisonné entre eux, si nous répondons, du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Ils ont donc refusé de répondre. Par contre, ils répondent à la question du verset 31, lequel des deux a fait la volonté du Père? Sans soupçonner qu'en réalité les deux questions visaient la même chose, leur propre rébellion contre Dieu. Par leur réponse, ils se jugent donc eux-mêmes. 2. Le sujet d'accusation. Jésus reproche à ses adversaires d'être comme le fils qui finit par désobéir à la volonté de son père. Car en rejetant le ministère de Jean-Baptiste, les chefs du peuple avaient en réalité refusé de reconnaître l'autorité de Dieu et de s'y soumettre. C'est justement l'accusation qu'ils cherchaient à éviter, Matthieu 21h25-26. Et pourtant, la conclusion de Jésus est inéluctable. Ah, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. L'expression « la voie de la justice » ne désigne pas seulement la conduite morale de Jean-Baptiste, qui était un modèle de sainteté, mais plutôt l'origine divine de tout son ministère. Jean 1, 6, il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Parlant du Père, Jean-Baptiste dit dans Jean 1h33, « Celui qui m'a envoyé baptiser ». Jean vint dans la voie de la justice parce que sa mission et son message tenaient leur autorité de Dieu lui-même. B. Et vous n'avez pas cru en lui. Leur attitude vis-à-vis de Jean-Baptiste avait été systématiquement négative, ils avaient rejeté sa personne, sa prédication et son baptême. Aux pharisiens qui lui avaient demandé qui il était, Jean répondit, Jean 1h23, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Mais au lieu d'admettre qu'il était l'Élie qui devait venir, Matthieu 11h14, Luc 1h17, ils répandirent sur lui une critique haineuse, Matthieu 11h18, il a un démon. Jean proclamait, Matthieu 3, 2, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais, dans leur cœur orgueilleux et endurci, les dirigeants juifs se fermèrent à cette prédication, ils refusèrent de reconnaître leur culpabilité devant Dieu et leur besoin de se repentir, ils refusèrent de croire à la bonne nouvelle de l'avènement imminent du règne messianique et du salut. Finalement, ils refusèrent le baptême de Jean, Luc 7h30, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard. Cela nous amène implacablement à la conclusion qui s'impose. C'est, en rejetant le ministère de Jean, les chefs du peuple et leurs semblables se sont soustraits à la volonté du Père. En tant qu'envoyé de Dieu, Jean avait pour mission de préparer le peuple, par un appel à la repentance, à entrer dans le règne messianique. Les chefs ont entendu cet appel divin, mais l'ont refusé. Ils ont adopté l'attitude du second fils, ils n'ont pas accompli la volonté de leur père. 3. L'aggravation de la culpabilité. L'incrédulité des chefs religieux était d'autant plus grave qu'ils s'étaient engagés au service de Dieu et se vantaient de connaître et de faire sa volonté. Par leur fonction, leur zèle pour la loi et leur prétention d'être justes, ils étaient ceux qui se déclaraient prêts à faire la volonté divine. Par conséquent, ils auraient dû être les premiers à reconnaître l'autorité de Dieu qui se manifestait dans la mission de Jean et les premiers à s'y soumettre. Ils étaient comme le fils qui dit oui à son père mais qui refuse ensuite de lui obéir. Mais ce qui aggrave vraiment le cas des pharisiens et des scribes, c'est leur endurcissement devant l'exemple des péagers et des prostituées. Ceux-ci étaient les types même des pécheurs publics, méprisés par tout juif observateur de la loi. Et pourtant, ces pécheurs notoires, qui avaient d'abord refusé la volonté de Dieu, ont cru à la prédication de Jean, se sont repentis, ont accepté son baptême et ainsi se sont mis en marche pour le royaume messianique. Luc 7h29, tout le peuple l'a entendu et les péagers ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Les pécheurs ont donné raison à Dieu et ont reconnu son autorité en se faisant baptiser par Jean, ils sont devenus des fils obéissants de Dieu. Matthieu 21h32, et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ce que les pharisiens ont vu, ce n'est pas seulement Jean, mais la repentance des pécheurs. Cela, au moins, aurait dû les provoquer à imiter leur exemple, et pourtant, ils ont persévéré dans leur incrédulité. 4. La sentence. La foi, la repentance et l'obéissance sont des conditions indispensables pour avoir accès au royaume messianique. En rejetant Jean, les pharisiens s'en sont exclus eux-mêmes. Matthieu 21h31b, en vérité je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Voici justement la pointe de la parabole, les pécheurs repentis devanceraient dans le règne imminent les chefs incrédules. Le verbe devancer n'a pas ici une signification d'ordre ou de temps, mais d'exclusion. Les pécheurs convertis n'auraient pas une certaine avance sur les pharisiens endurcis, ils prendraient carrément leur place dans le royaume. La sentence que Jésus prononce contre ses interlocuteurs est celle-ci, les pécheurs repentis parviendront au royaume messianique, mais pas vous. À l'hostilité meurtrière des chefs du peuple, Jésus répond par une parabole de condamnation, dont la leçon peut être formulée ainsi, de même que c'est le fils d'abord rebelle mais ensuite repentant qui fait la volonté de son père, et non pas le fils qui dit oui mais n'obéit pas, de même ce sont les pécheurs ayant cru en Jean-Baptiste qui entreraient dans le royaume messianique et non pas les chefs du peuple qui ont rejeté Jean et refusé de se repentir. Leçon secondaire 1. Un oui qui n'est suivi par des actes n'exprime pas une véritable obéissance. Luc 6h46, « Pourquoi m'appelez-vous, Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» 2. Pour Dieu, l'important ce n'est pas ce que nous étions, mais ce que nous devenons. 3. Cette parabole illustre la nature de la vraie repentance, revenir complètement sur sa rébellion contre Dieu pour accomplir ce qu'il demande dans une situation donnée.